Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur et on s'était arrêté au chapitre 12, donc l'histoire de la division du royaume, le royaume que Salomon a laissé. Finalement, c'est il y a eu division. Jéroboam, l'ancien serviteur de Salomon, est devenu roi de 10 tribus d'Israël. Et bien sûr, par la prophétie, d'Achija, donc dirigé par le Saint-Esprit, et Roboam a gardé que le 10 tribus de Juda et de Benjamin. Et on s'était déjà offusqué de voir que Jéroboam, qui a été établi par Dieu, par prophétie, ce n'est même pas, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de flou. Tout était clair, c'est une prophétie de Dieu qu'il a établi, roi. Mais finalement, qui tombe dans une idolâtrie officielle, quoi. Il construit des veaux à Bethel, et il met l'autre à Dan, et a commencé un culte lié à ces veaux-là, à ces animaux, alors que le véritable culte, c'est à l'Éternel, le Dieu invisible. Donc, on était choqués la fois dernière de voir ça, voir qu'à chaque fois, Dieu fait des faveurs à l'homme, il établit l'homme. Comme ça a commencé même avec Satan, il a créé avec beaucoup de beauté, beaucoup de gloire, et Satan s'est rebellé, ensuite c'est venu avec Adam, et ça continue. À chaque fois, Dieu fait de bonnes choses à l'homme, notamment il lui a donné l'intelligence. Et qu'est-ce que fait l'homme? L'homme prend cette intelligence pour l'utiliser et conclure que Dieu n'existe pas. Voilà, cette trahison-là, cette rébellion naturelle, ça continue jusqu'à nos jours. Dieu fait des faveurs aux gens, mais ils se saisissent même de ces faveurs-là pour faire du mal à Dieu. Et nous allons maintenant prendre le chapitre 13, qui est un chapitre important de la Bible. C'est le chapitre 13. C'est un chapitre important pour le reste de la connaissance de Dieu. Voilà.
Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était au-dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour, le chemin par lequel il était venu à Bethel.
Voilà, donc Ça, c'est la première partie. Donc, on voit Jéroboam, le nouveau roi, le nouveau roi, pendant un certain temps, il fait des sacrifices à l'autel de Bethel, alors que Dieu l'a établi clairement, et des sacrifices à un faux dieu, donc à des statues, donc à l'autel pour brûler, à l'autel qu'il a posé à Bethel. Et Dieu envoie un homme de Dieu, on ne dit pas son nom, c'est un inconnu, mais c'est un homme de Dieu qui vient et qui prophétise, qui parle à Jéroboam pour dire « Ce n'est pas bon ce que tu fais là ». Et il cria contre l'autel, on nous dit le verset 2, par la parole de l'Éternel, et dit « Autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Voilà, son nom sera Josias, et il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Voilà ce que dit Jéroboam. Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra. » Et la cendre qui est dessus sera répandue. Donc, il réprouve le comportement de Jéroboam et des prêtres qui font ce qu'ils faisaient là. Et le roi a voulu jouer au fort, au costaud. Il a voulu s'opposer à l'homme de Dieu. Donc, il est écrit, lorsqu'il a dit, saisissez-le, sa main a été bloquée. Et l'autel s'est brisé et la cendre fut répandue selon, comme c'est écrit, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Donc là, on voit, c'est par la parole de l'Éternel. Dieu lui a dit, voilà ce qui va se passer. L'homme de Dieu n'a fait que répéter et le signe s'est accompli pour confirmer que c'était la parole de l'Éternel. Le roi lui-même a dû admettre que c'était la parole de l'Éternel. Il s'est humilié pour demander à que l'homme de Dieu prie pour lui, afin que sa main retrouve son fonctionnement normal. Et c'est ce que l'homme de Dieu a fait. Et finalement, sa main a retrouvé son fonctionnement normal. Et le roi maintenant invite l'homme de Dieu. « Entre avec moi dans la maison, verset 7, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc, nous voyons l'application stricte de la parole de Dieu, c'est que ça produit. Ça produit un miracle, l'autel se fend. Ça produit l'accomplissement de la prophétie. Et cet homme-là, ce prophète-là, cet homme de Dieu, il applique. Et finalement, il refuse même le cadeau qu'on lui propose par le roi. Il refuse d'aller manger chez le roi parce que la suite de la prophétie, quand Dieu lui parlait, il lui avait dit, tu ne manges pas là-bas, tu retournes par un autre chemin. Donc, tous les ingrédients sont là pour dire, vraiment la parole de Dieu est efficace. Et cet homme s'en rend compte et applique tout ce que Dieu lui avait donné. Voilà une première partie très importante où Dieu montre que sa parole est réelle et efficace. Maintenant, nous allons lire la deuxième partie qui va nous montrer autre chose parce que, voilà, il y a peu de gens qui sont attachés à la parole et jusqu'au bout, nous allons lire.
Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Puis s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. »
Voilà, bien-aimé, un épisode difficile. De voir que quelqu'un qui a été fidèle à Dieu lâche à un moment donné et se retrouve dans des problèmes graves. Voilà. Cet homme a été fidèle. Vous savez, ce n'est pas facile de venir parler à un roi. Surtout à l'époque. D'ailleurs, vous avez vu la réaction du roi. Saisissez-le. Donc, ce n'était pas facile, et surtout à cette époque-là, surtout dans des pays dictatoriaux, d'aller voir une personne élevée et lui dire la vérité. On risque sa vie parfois. On risque la prison. On risque qu'on te frappe déjà même sur place. Donc, on peut dire que cet homme-là, pendant un certain temps, a été fidèle. Il est venu, il a carrément parlé au roi en prophétisant des malheurs. Mais, à un moment donné, il a négligé la parole de Dieu. Donc on cherche, mais comment cela arrive-t-il? Nous Oui, question.
Oui, parce que je voulais savoir, est-ce que on peut dire que le Seigneur a utilisé le prophète pour piéger, enfin, pour tester?
Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le Seigneur.
Bah, parce qu'à un moment donné, il écrit que le Seigneur, Dieu t'avait dit de ne pas manger.
Oui, mais oui. Donc c'est de son initiative, il a voulu piéger, il a voulu faire tomber l'homme de Dieu. Parce que c'est écrit, il mentait. Voilà. Voilà. Donc cet homme a fonctionné avec une certaine fidélité. Mais bien aimé, il faut aller toujours, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, c'est très important. Il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment lui, il a pu affronter des grands dangers quand même, aller parler au roi, parce qu'il pouvait freiner, dire, Seigneur, tu m'envoies chez le roi, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Mais il savait que c'était Dieu, alors il est parti. Et en allant prêcher au roi, les signes se sont accomplis. Un miracle a été accompli, le bras du roi, la main du roi est devenue sèche. Donc tout était là pour dire, c'est vraiment la parole de Dieu. Mais dans cette parole, il y avait un chapitre qui disait, tu ne manges pas là-bas, tu retournes par un autre chemin, tu ne manges chez personne. Et il a même obéi, bien aimé, vous vous imaginez, résister à un roi qui t'invite et qui te dit qu'après je te donnerai un cadeau. Mais de tels cadeaux, ça fait de toi un riche à vie. Donc, il a même résisté à cette tentation forte, charnelle. Il a résisté. Mais qu'est-ce qui a fini par le faire tomber? C'est vraiment ça qui est important. Je dis, 1 Roi 13 est un chapitre très important de la compréhension des choses de Dieu. Oui?
Pasteur, moi, je voulais dire, mais par rapport à ce que le Seigneur demande...
Est-ce que le micro est allumé? Oui, d'accord, ok.
En fait, ma question, c'est, pourtant, Dieu ne demande pas quelque chose de grand, en fait, au prophète. Mais c'est vrai que ça nous rappelle aussi, en fait, à nous-mêmes. C'est vrai que des fois, Dieu nous demande des choses qui paraissent simples et tout, mais, comment dire, on ne le fait pas. Et ça entraîne des graves conséquences. C'est quand même, ça fait peur quand même. Ça, dans le sens où c'est vrai quelque chose que nous, on pense être simple. On se dit, bon, c'est banal, Dieu me demande ça. Bon, peut-être que je peux ne pas faire et tout. Mais on voit quand même que là, ça...
Ça entraîne des graves conséquences.
Mais pourquoi, même nous, en tant qu'humains, en fait, on réagit comme ça? Est-ce que c'est parce que... Ou on, en fait, on banalise la chose, ou on se dit, je ne sais pas, c'est pas grave.
Parce qu'on banalise la parole de Dieu parce qu'elle vient d'une manière simple. Ce n'est pas le tonnerre qui parle. Si, par exemple, c'est une voix qui parlait du ciel, tu ne passes pas par un autre chemin, le nuage bouge, tout ça, tout le monde va obéir. Mais comme ça vient d'une manière simple, l'homme aime ce qui touche au sens. Il aime ce qui bouleverse les sens, ce qui s'agite, ce qui fait du mouvement, ce qui explose. C'est ce que l'homme aime. Voilà. Maintenant, comme la parole de Dieu vient parfois d'une manière très simple, on a du mal parce qu'on veut saisir Dieu par la chair. Or, Dieu est esprit. Il faut qu'on le saisisse en esprit. Et maintenant, comme nous, on veut s'appuyer sur la chair, il y a des moments où la parole de Dieu paraît trop faible pour notre chair et on la néglige et les conséquences sont graves. Oui.
Je ne comprends pas la motivation du méchant prophète. OK, il a menti, mais après... Okay. On voit qu'il est méchant, il a menti. Mais après, il dit à ses fils, ben quand je vais mourir, je voudrais être enterré à la même place que lui, montrant qu'il y a un respect pour ce premier prophète.
Ah oui? Il reconnaît que ça a été un vrai prophète du Seigneur et que comme lui, il est charnel, il veut que même dans sa mort, il soit à côté d'un vrai, quoi. Voilà. Il veut prendre sa vérité même dans la mort. Donc, le vieux prophète, il est charnel, ça c'est clair.
Mais... Il est vraiment charnel et méchant, je veux dire.
Ah oui, bien sûr.
Il a cherché... Ce prophète était un prophète du diable.
Non, on dit pas que c'était un prophète du diable. On dit que c'était un vieux prophète. Donc, Dieu l'a utilisé à un moment donné Mais le type est devenu charnel et c'est resté donc dans les annales, dans les souvenirs, comme on dit en anglais, de has been. Donc j'ai été. Et maintenant, quand il entend que quelqu'un fait du succès, il est jaloux. Il se dit, ah non, je dois faire un truc pour que nous tous, on soit pareil. Et voilà. Il y a des vieux, les vieux chrétiens, quand ils voient un jeune chrétien manifester beaucoup de foi pour quelque chose, ils disent, petit, nous tous, on est passé par là. Voilà. Ils viennent pour te décourager, pour te dire, oh, nous tous, on avait la foi comme toi. Nous tous, on tenait à Dieu comme toi. Mais attends, tu vas voir que ça, c'est pas possible. C'est parce qu'eux, ils ont échoué. Ils veulent que tout le monde échoue.
C'est une jalousie grave.
Ah oui? Ah oui, c'est une jalousie grave. Voilà. Mais ce qui existe, il faut qu'on comprenne que ça existe et que jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont connu de grands moments avec Dieu. Après, ils ont négligé le Seigneur les a mis de côté. Ces gens-là n'aimeraient pas voir une émergence des vrais chrétiens dans la vérité. Ils ne vont pas aimer. Ils vont essayer de corrompre ces vrais chrétiens-là. Ils vont essayer de le faire par jalousie parce qu'ils se disent, mais ils sont vraiment dans la vérité. Nous, on n'a pas pu tenir dans cette vérité-là. Faisons en sorte qu'eux aussi tombent. Comme ça, on est pareil. Voilà. Oui, question.
Oui, pasteur, on pourrait argumenter en lisant ce passage que le Seigneur a été quand même relativement dur vis-à-vis du bon prophète, dans le sens où le prophète était quand même fidèle au Seigneur, mais il a été trompé, parce que pour ma part, quand je lis ce passage, j'ai le sentiment qu'il a été trompé par quelqu'un en qui il a fait confiance. Et pourquoi est-ce que le Seigneur l'a châtié aussi durement? Il pouvait simplement peut-être l'avertir, ou enfin lui faire un petit avertissement, mais sans tout autant ôter sa vie de la manière qu'il l'a faite. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Seigneur a été très dur sur cet événement?
Non, non, le Seigneur n'est jamais très dur, ni moins dur, il est juste. Il est juste, il sait ce qu'il a fait avec cet homme-là. Le fait que, bien aimé, vous imaginez un roi qui tend la main vers toi, sa main sèche. Donc, tu as bien vu que ce qu'on t'avait envoyé comme mission, c'était de Dieu. Clairement, donc la démonstration a été faite. L'autel s'est brisé en deux, à distance. Donc cet homme a eu tous les éléments pour comprendre que c'est Dieu qui lui a parlé. Et ce Dieu-là est tout puissant pour accomplir sa parole. Et il a refusé une tentation grande. Parce qu'un roi qui t'invite, c'est grand comme tentation. Déjà, il y a son autorité de roi. Dire non à un roi, ce n'est pas facile. Il t'invite déjà son autorité de roi. Et en plus, pour te proposer un cadeau et manger chez lui, tu as les honneurs en plus. Il a résisté à ça. C'est la preuve quoi. Il croyait en cette parole-là. Mais Dieu nous met en garde. Attention. Même si un ange, Galates 1, 8 à 9. Dieu nous met en garde. Bien-aimés, Dieu est plus grand que les anges. Dieu est plus grand que les grands prophètes. Il est plus grand que n'importe quel pasteur. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a 200 000 membres que ce qu'il va te dire est plus important que ce que Dieu a dit simplement dans ses écrits. Attention, Galates 1, 8 à 9.
Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Voilà. Paul est parti loin. Il a dit, même si lui-même, Paul, dans 10 ans après, il vient changer, il ne faut pas le suivre. Mais, alors que c'est lui, Paul, qui avait prêché. Maintenant, il dit, ce que je prêchais là, je sais que c'est la vérité. Si dans 10 ans après, je change, même moi ne me suivez pas. J'aurais menti. Même un ange. Donc, cet homme a eu la confirmation. On pourrait dire, bon, au début, c'est une voix qui lui a parlé, mais là, il a eu la confirmation parce qu'il y a eu des accomplissements fulgurants. Il a eu la confirmation que c'était Dieu qui a parlé. au point qu'il a refusé l'invitation du roi. Mais maintenant, la tentation subtile, c'est au milieu des enfants de Dieu. La prophétie, les visions, Dieu m'a dit, c'est là la tentation subtile qui fait tomber beaucoup de gens qui vont en arriver à négliger les Écritures, négliger la Bible parce que Dieu a dit, parce que quelqu'un a réussi. Il y a des gens qui disent, ah mais oui, mais Joyce Meyer, elle a une église de milliers de personnes. Vous voulez qu'il dise que les femmes ne peuvent pas prêcher alors que Joyce Meyer, elle prêche et l'église est remplie. Donc, parce que Joyce Meyer prêche, l'église est remplie, on dit, mais certainement Dieu est avec elle. Ah non! Quelque chose qui contredit les Écritures n'est pas correct, même si ça trouve du succès. C'est ce que Galates 1:8 nous dit à 9. Donc même si un ange vient nous vous dire ça, un ange il vient avec puissance, lumière, gloire, même s'il vient changer, si lui, un ange, vient changer la parole, ne suivons pas. Restons sur ce qui est écrit. Et nous savons que ce qui est écrit est la parole de Dieu. Cet homme savait que ce qu'on lui avait dit, c'était la parole de Dieu. Mais puisque l'homme l'a dit, c'est un ange qui est venu me voir. Lui-même, il a été impressionné par le fait qu'on cite le nom d'un ange. Et beaucoup sont impressionnés parce qu'ils ont vu un ange. Non, la parole de Dieu est au-dessus de tout cela. Oui,
Pasteur, pardon, je continue dans ma question. Est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui pensent que ce prophète, finalement, il a perdu son salut. Est-ce qu'on peut extrapoler en disant
Lequel?
Le bon prophète, celui qui a désobéi à la parole.
Nulle part c'est écrit qu'il a perdu son salut.
Mais parce que techniquement, il y a des personnes qui peuvent se dire que si on meurt dans la désobéissance, on perd le salut automatiquement.
Moi, je dis ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. On ne nous a pas révélé qu'il est mort dans la désobéissance. On nous révèle qu'il a, on lui a dit la vérité, on ne nous montre peut-être qu'il s'est repenti en chemin. Mais la prophétie du Seigneur a demeuré, donc ça on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que le vieux prophète quand même a souhaité être enterré avec lui. Peut-être qu'il a vu en lui une âme bienfaisante, une âme de vérité jusqu'au bout. Voilà, donc on ne nous dit pas... Comment il a fini, ça reste pour Dieu. Nous, on prend la leçon suivante. Attention, on ne blague pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Même si un ange vient changer, même si quelqu'un est en train de prêcher autre chose, qu'il a du succès, les gens le suivent, mais il cite le nom de Jésus, mais en sa sauce à lui, ce n'est pas la parole de Dieu. Son succès ne doit pas nous faire croire que nous, on est dans le faux. Non. Celui qui est dans le vrai, c'est celui qui suit la parole de Dieu. Même s'il n'a pas de succès, même s'il est emprisonné, la parole de Dieu reste la parole de Dieu, c'est la vérité. Oui.
Pasteur, je voulais savoir, en fait, nous, comme le grand comme le prophète et tout, c'est vrai qu'on résiste.
Lequel?
En fait, le bon, celui qui a résisté au roi. C'est vrai que même nous aussi, par rapport à notre vie et tout, c'est vrai qu'on résiste des fois à beaucoup de combats, donc on tient bon. Et pourquoi, comme lui, après, quand c'est des petites choses et tout, donc on cède. Est-ce que c'est parce que on se dit, bon, pour les grandes choses, Dieu est avec nous, et là, bon, même si je lâche, peut-être que Dieu est avec moi.
Parce qu'on se dit ça aussi, tu as raison, parce qu'on a tendance à penser que Dieu est seulement dans les grands combats. Là, on se lève, on prie, et on n'est pas vigilant dans les combats de tous les jours. Comment on peut se nerver au travail, comment, voilà, rester poli vis-à-vis des parents à la maison, voilà. Donc, les choses petites, on les néglige. Oh, c'est le même, devant Dieu, ce sont des péchés aussi également. Et devant les forces des ténèbres, c'est aussi des péchés. Nous, on croit que le péché, c'est celui qui se fait dans des grands combats. Non, devant les forces des ténèbres, ce qu'on fait là, les petites choses, petits mensonges, ceci, c'est aussi grave. Et on doit apprendre à prendre tout cela au sérieux. Et la grande tentation viendra même au milieu de nous. Viendra dans la négligence de la parole à cause d'une prophétie, à cause d'une vision, à cause, d'une promesse venant d'un enfant de Dieu, et on va négliger les Écritures parce qu'on veut ménager quelqu'un. Peut-être lui aussi voulait respecter le vieux. Il dit, c'est le vieux prophète qui m'invite. je ne vais pas quand même dire non. Mais voilà, il a voulu ménager un homme. Voilà, et parfois, en voulant mettre les gens à l'aise, on va diminuer la parole de Dieu. On va la détourner un peu parce qu'on veut mettre les gens à l'aise. Voilà, je ne dis pas non plus que la parole de Dieu est là pour mettre les gens mal à l'aise, pas du tout. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que dans Colossiens 4, 6, que notre parole doit être assaisonnée de sel. Voilà, donc ce n'est pas que la parole est là pour mettre les gens mal à l'aise, mais nous ne devons pas la changer. Nous devons la présenter de manière que ça ne soit pas comme quelque chose, une provocation, mais on ne doit pas la changer. Et on peut être tenté de changer cette parole parce qu'on ne veut pas blesser quelqu'un, on ne veut pas faire ceci, on ne va pas... Et changer carrément la parole, c'est très dangereux. On voit, cette leçon-là est pour nous les vivants. Attention, on ne bouge pas la parole de Dieu. Elle doit rester telle qu'elle est. Voilà. Vaut mieux que toi-même tu pêches, mais ne bouge pas la parole de Dieu. Cet homme-là a lui-même, il s'est condamné parce qu'il avait dit, il avait juré à Jéroboam, le roi. Il a dit, Dieu m'a dit de ne pas faire ça. La parole de Dieu a été sortie. C'est lui-même qui l'avait dit. Donc du coup, en faisant le contraire, il s'est condamné lui-même. Donc nous-mêmes qui disons la parole, et donc quand maintenant on oublie ça, eh bien on se condamne soi-même. Voilà, donc c'est un passage très très important qui nous montre que, voilà, dans les milieux chrétiens, c'est là que se trouvent les plus grosses tentations. C'est dans les milieux chrétiens. Parce que quand c'est un païen qui vient nous tenter, normalement on est déjà vigilant parce que c'est un païen. Mais quand c'est un chrétien maintenant qui veut nous tenter, on n'est pas vigilant parce qu'on se dit, mais peut-être que Dieu lui a parlé. Peut-être que c'est un ange qui lui a parlé. On se dit, mais oui, mais comment il peut avoir une église de 40 000 personnes et dire des fausses choses? Certainement, c'est une nouvelle révélation que Dieu lui a donnée. Alors, on fait des excuses parce qu'on dit le nom de Jésus est cité. Et surtout qu'à un moment donné, dans le milieu chrétien, on avait fait courir une histoire comme quoi, dans une réunion de satanistes, un nouveau sataniste, sans le savoir, avait cité le nom de Jésus, d'une manière fortuite, avait cité le nom de Jésus. Et tout le monde avait crié sur lui en lui conjurant de ne plus citer ce nom-là. Et il y avait maintenant une mode dans le milieu chrétien. On connaît les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux-là qui citent le nom de Jésus. On nous a trompés comme ça, parce qu'il y a beaucoup de satanistes qui citent le nom de Jésus. Beaucoup. Donc, c'était devenu une mode. Maintenant, dès que quelqu'un citait le nom de Jésus, on le considérait comme étant un vrai serviteur. Suite à une histoire, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient dans le monde satanique. Une histoire comme quoi le nom de Jésus a fait trembler les gens dans le monde satanique. Du coup, un faux serviteur n'est pas capable vraiment de citer le nom de Jésus. Et cette histoire a fait longue vie dans les milieux évangéliques, dans les années 80 aux années 2000. C'était comme ça. Ah, il a cité le nom de Jésus, donc il est bon. C'est faux. Donc, même un sataniste peut citer aussi le nom de Jésus. C'est Dieu qui décide quand ce nom-là va brûler ou pas. Mais en tout cas, on en a vu des faux, des grands faux citer le nom de Jésus. Donc, ils ont réussi avec cette fausse histoire-là satanique à endormir les chrétiens. Nous devons être vigilants. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Personne ne doit la négliger. Sinon, ça finit mal. Donc, même pour mettre les gens à l'aise, mettre la famille à l'aise, pas question. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Nous continuons, verset 33.
Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre.
Voilà, donc Jéroboam, malgré, bien-aimé, voyez, les gens s'étonnent du jugement du Seigneur. Cet homme vient d'expérimenter le miracle. Vous n'allez même pas dire que non, la parole de Dieu lui a été donnée d'une manière simple. Non, elle a commencé d'une manière simple, mais elle a fini avec fracas, avec éclat. Donc lorsque l'autel se fend en deux, lorsque son bras reste bloqué. Mais tout était là pour dire, mais écoute l'avertissement du Seigneur. Et non, le monsieur, dès que le prophète, le bon, s'en est allé, ben il a replongé. Vous savez, ça aussi, c'est un problème. Je voulais même citer ce problème-là par rapport au bon prophète. Un des problèmes que nous avons, c'est que même quand nous avons vécu un miracle, notre cerveau oublie les choses. Un des problèmes que nous avons, c'est celui-là. C'est-à-dire que tant que la force visible de la parole était là, c'est-à-dire l'autel qui se fend en deux, le roi qui est bloqué, tant que cet événement était encore frais dans le jeune prophète, ça lui a permis de dire non à l'invitation du roi et de prendre un autre chemin. Mais en prenant l'autre chemin, tous ces événements-là n'étaient plus frais. Et du moment donc on lui a amené autre chose, il a pris autre chose. Au fait, nous, c'est pourquoi il est écrit, on doit méditer la parole de Dieu jour et nuit pour que ça reste frais en nous. On a tendance, quand on l'a pas lu régulièrement, quand elle n'est pas en face de nous, on a tendance à prendre autre chose. C'est peut-être ce qui est arrivé au bon prophète, c'est ce qui est arrivé à Jéroboam. Tant que le bon prophète était là, tant qu'il avait pris, il avait vu l'exploit du Seigneur, Jéroboam s'est humilié. Mais dès que le jeune prophète a disparu, le bon prophète a disparu, il n'était plus là, il a replongé encore dans autre chose. Nous, bien-aimés, nous avons la Bible, nous avons les Écritures. C'est pourquoi David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Oui, question.
Oui, pasteur, je voulais comprendre quelque chose. Je vois que dans certains versets de la Bible, on dit souvent prêtre. Est-ce que ça veut dire que le fait d'être prêtre en soi, c'est pas mauvais? C'est ce qui se fait derrière qui est mauvais?
Le fait d'être prêtre,
oui, comment ça? Bah, les prêtres.
Mais quel prêtre?
Bah, les catholiques, par exemple.
C'est il faut préciser. Parce qu'il y a des prêtres bouddhistes, il y a des prêtres.
Oui, bon, tout ça.
Les catholiques.
Est-ce que c'est pas le fait d'être prêtre qui est mauvais?
Non, le catholicisme est un mouvement satanique. Ça, donc, quand tu es prêtre, quel que soit l'endroit, si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais nous, les chrétiens, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, mais du Dieu vivant. Voilà. Ok, nous continuons. Chapitre 14.
Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux, et un vase de miel, et entre chez lui. » Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam, comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par des chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive ? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père. Et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirza. Et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place.
Voilà donc comment Jéroboam finit sa vie. Et il tente encore une supercherie en envoyant sa femme en cachette pour consulter les prophètes. Vous savez, c'est des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas de position. Il est avec le faux Dieu, mais après il se souvient mais que le véritable Dieu existe. Je peux avoir une vérité de sa part. Voilà, c'est des gens comme ça, sans position, qui ne prennent pas une fois pour toutes un chemin, qui cherchent des solutions à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont comme ça, qui cherchent des solutions d'église en église, d'église en église, d'église. Donc, ils n'ont pas de position de savoir comment Dieu les conduit une fois pour toutes, leur montrer un chemin à suivre. Non, ils cherchent des solutions sur Internet dans tel homme de Dieu. Donc, finalement, ils écoutent des choses qui se contredisent parfois et ils ne savent pas quoi faire. Donc, alors que Dieu a la capacité de nous montrer le chemin à suivre une fois pour toutes, quelqu'un que nous devons écouter, quelqu'un qui doit nous encadrer une fois pour toutes. Mais non, toujours pas de position et on prend ceci, on prend cela. Pour autant que ça marche, on prend. C'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Il faut suivre un chemin avec Dieu. Et Jéroboam, sans position, il finit très, très mal avec une mauvaise prophétie. Mais il y a un détail qui nous fait réfléchir là. C'est le verset 13. « Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un tombeau. » Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, pourquoi cet enfant-là meurt ? Parce qu'il était droit, parce qu'il était bon. Donc, arrêtons de réfléchir sur Dieu lorsqu'on ne connaît pas tous les éléments. On dit, mais pourquoi un tel est mort ? Mais peut-être parce qu'il est justement, Dieu l'aimait beaucoup qu'il l'a enlevé. Là, on a la preuve. Donc, cet enfant-là meurt avant les autres parce que c'est lui que Dieu aimait le plus, parce qu'il était droit. Donc, attention dans nos jugements sur les choses qu'on voit. Dieu, lui seul, connaît tout. Ne jugeons que de ce que nous, on peut savoir. Oui.
Il y a une question Internet. La question revient sur le jeune prophète. Donc, le fait que le jeune prophète n'ait pas écouté, cela annule-t-il ce qu'il a fait auparavant, tout ce qu'il a fait?
Ben, on va lire Ézéchiel, je crois. Hein. Ézéchiel chapitre 2 pour répondre à ça. Non, Ézéchiel chapitre 3, excusez-moi. Verset 20.
Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang.
Voilà. Donc, si un juste meurt dans le péché, ben sa justice qu'il a pratiquée autrefois ne compte plus. Maintenant, s'il meurt dans la vérité, s'il meurt dans la repentance, ah oui, là les œuvres vont le suivre au ciel. Mais comme on ne sait pas ce monsieur, comment il est mort, au fait, ce que je veux dire, c'est que on ne va pas tenir compte de sa justice passée pour le juger, on tiendra compte de la fin. Voilà, c'est ce qu'on veut dire en conclusion. C'est la fin qui compte. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, disent les Écritures. C'est tout? Ok. Voilà donc, bien aimé, comment finit Jéroboam alors que Dieu l'a établi. On voit que cette rébellion-là se trouve dans tous les humains. Naturellement, on a tendance à transformer la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu nous donne, on a tendance à transformer ça en une arme contre Dieu encore lui-même. Vous allez voir quelqu'un qui voulait un enfant, ça ne vient pas, il pleure, Dieu lui donne l'enfant. L'enfant maintenant devient la raison pour laquelle la personne n'a plus le temps pour servir Dieu. L'homme fait toujours ça naturellement. Transformer ce que Dieu lui donne comme bénédiction en quelque chose qui contre Dieu. Pensons, réfléchissons à cela. Demain, dans le cadre de notre jeûne, nous allons parler de la repentance. Donc, pensons à tout ça. Qu'est-ce qui, dans notre vie, qui est un cadeau, qui est une bénédiction, mais qui devient, par négligence, quelque chose contre Dieu. On se sert de ça pour ne plus prier. On se sert de ça pour ne plus rejoindre les frères et sœurs. Et on se sert de ça pour pécher aussi. Donc, il faut réfléchir à tout cela. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui puisque nous sommes dans la série de jeûnes et prières, le thème étant l'adoration, l'humilité. Et dans cette adoration et humilité, on va parler demain de la repentance. Donc, l'humilité, c'est aussi savoir se repentir de ses péchés, reconnaître que Dieu seul est juste et que nous, on a des imperfections, on a besoin de se repentir et nous allons prier que Dieu nous aide à prendre sa parole au sérieux, bien-aimés, par rapport à ce que nous venons de lire. Négliger la parole de Dieu, c'est fatal. Négliger la parole de Dieu au profit des anges, on dit, mais il a vu des anges, il a eu une vision, il est monté au ciel. Oui, mais si ce qu'il dit contredit la parole de Dieu, l'apôtre nous dit dans Galates 1, 8 à 9, on n'accepte pas. Ah oui, mais il a fait des miracles. Oui, mais Matthieu 24, 24 nous dit que le diable va faire aussi des miracles. Si ce que l'enseignement est donné n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si ça vient de quelqu'un qui a fait 40 ans de preuve de vérité, il y a des gens qui ont fait 40 ans, 30 ans de preuve de vérité, mais si la 42e année, il commence à dire des choses qui ne sont pas bibliques, on ne suit pas. Ce n'est pas lui qui est la vérité, c'est la Bible qui est la vérité. Voilà, prions que le Seigneur nous garde dans sa parole au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier, Seigneur, que tu nous gardes dans ta parole, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur, même si quelqu'un venait à sortir le feu de par sa bouche et qu'il nous dise des choses qui sont contraires à ta parole, qu'on n'accepte pas. Même si quelqu'un nous donnait de l'argent, nous donnait un bâtiment et nous voudrait nous voir faire des choses qui sont contraires à ta parole, Seigneur, aide-nous à ne pas suivre. Aide-nous à nous attacher à ce qui est écrit. Car ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça ta parole. Nous ne sommes que des humains, nous pouvons nous tromper, mais ta parole est la vérité totale, Seigneur. Aide-nous à nous attacher à ta parole, telle qu'elle est écrite dans la Bible, afin que nous recevions la vie, afin que nous marchions, Seigneur, dans la gloire. Nous te remercions pour cette journée de jeûne et nous prions, Seigneur, que tu nous soutiennes demain dans le sujet repentance et que tout soit fait pour ta gloire dans nos vies. Nous purifions tout ce que nous allons manger pour clôturer le jeûne. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse.